procureur, il doit surtout éviter de faire rentrer des bruits du dehors à l'intérieur du monastère. Alors c'est sûrement pas lui qui va communiquer les nouvelles. C'est au prieur de donner les nouvelles qu'il veut bien donner.
Et qu'est-ce que c'est les nouvelles qu'il choisit? Enfin, cette sélection, il l'a fait en fonction...
Bon, bah, il peut dire que... j'ai su quand... Non, ça c'était pas ce moment-là. Par exemple, le président des États-Unis assassiné, ce jour-là, il y avait plusieurs novices américains, moi j'étais pas encore à ce moment-là, mais qui étaient donc dans leur cellule, et le révérend père l'a dit au père maître qui a été leur dire qu'il y avait eu ça. Ils ont été informés assez vite, mais, parce que c'était quand même quelque chose d'important. Donc, c'est pas toujours immédiat, parce que je vois que par exemple quand Pompidou est mort, on l'a appris la récréation du dimanche suivant, on ne l'a pas dérangé pour cela.
On peut entretenir une correspondance avec l'extérieur
Au noviciat, avec la famille, à peu près une fois par trimestre. Après, c'est peut-être un peu plus libre, mais théoriquement, le prieur il contrôle le courrier, mais je pense qu'il leur laisse une certaine liberté, ils pensent qu'ils sont assez grands quand même pour prendre leur responsabilité à ce niveau-là. Mais c'est pas recommandé d'entretenir de la correspondance avec l'extérieur.
Mais est-ce que ce contrôle dont vous parlez, est-ce que c'est, on peut appeler ça une censure ou bien...
Une autocensure.
Une autocensure ou...
Oui, parce que ça ne correspond pas bien à la vocation cartusienne d'entretenir des rapports avec l'extérieur. Et on estime que si les moines en sont conscients, ils font en sorte de se limiter à ce niveau-là. Alors aux noviciats, on leur impose, et après...
Ils sont juges.
Enfin, ils mettent quand même leur courrier dans une première boîte à lettres qui est celle du révérend père. Alors peut-être que s'il y avait. Ils n'oseraient peut-être pas d'ailleurs en mettre trop de courriers.
Sinon un contrôle, voilà. Du moins.
Et il n'a pas un contrôle direct, il dit peut-être rien, mais c'est quand même pas la boîte à lettres du facteur. On ne va pas directement envoyer la lettre au facteur. Alors ça fait quand même une certaine censure. Oui.
Oui, alors, et pour parler alors plutôt maintenant parler de la vie et puis de son rapport avec l'extérieur, mais à l'intérieur, oui. Donc, du couvent, ce qu'on voudrait savoir, c'est quel est le degré exact de solitude et le degré de vie en communauté. À part ce qu'en dit la règle, enfin, que nous connaissons, bon, il y a le fils qui est ensemble, il y a la promenade du dimanche, il y a le repas en commun, d'ailleurs on ne parle pas, je crois.
Oui, on ne parle pas. Alors là aussi, enfin, il y aurait beaucoup à dire sur sur toutes ces questions-là. Parce que le repas, d'après la règle primitive, c'est prévu comme un rassemblement fraternel, enfin on partage le repas. Et c'est. Je pense que ça a été un peu rigidifié, enfin un peu figé au cours des siècles on suit un rite qui finalement est assez mal perçu et les moines se rendent le soir après les vêpres et le matin après l'office de sexte, ils se rendent au réfectoire les uns derrière les autres et ils attendent la prière du début. Au signal du président, du prieur, il s'assoit, il met le capuchon sur la tête, et le lecteur commence sa lecture, et il mange en silence, le nez dans la gamelle. et si bien que lors des changements, donc des adaptations qu'il a fallu faire après le concile, certains avaient proposé de supprimer le repas du dimanche soir parce que en fait ça leur appartenait, ils préféraient manger en cellule que de manger au réfectoire. Donc je pense que là il y a une certaine déviation de l'esprit original qui était quand même de faire un repas en commun qui est devenu une corvée. Alors, en plus de ça, le lecteur, bon, il était dans sa chair, qui est taillée dans le mur, une jolie chair, mais avec un gros bouquin devant, sans micro, et en latin, avec le bruit des gamelles et les autres, le capuchon sur la tête, c'était tout à fait inaudible, à part un ou deux qui articulaient très, très bien, personne n'a jamais compris la lecture du réfectoire. Alors maintenant, il y a une certaine amélioration, et le lecteur n'est plus dans sa chair, il est dans un endroit où on peut mieux l'entendre, et il parle en français, donc peut-être qu'ils arrivent à suivre la lecture, mais avant c'était un rite, et ça n'avait pratiquement pas d'intérêt. Si bien qu'il y avait une certaine désaffection pour cette forme de vie communautaire. Alors plutôt que d'améliorer cette manifestation communautaire, peut-être en mettant une lecture plus brève au début, en permettant de parler, ou en faisant des tables plus petites au lieu d'avoir toutes ces tables assez imposantes tout autour de la salle, peut-être qu'ils auraient repris goût à avoir un certain contact au réfectoire. Mais comme ça n'a pas été fait, beaucoup préféraient qu'on supprime le réfectoire et mangent en cellule plutôt que de changer ça. Alors il y a un certain ritualisme qui, à mon avis, c'était un peu une déviation peut-être de ce qui avait été voulu au départ. Ça, c'est pour le réfectoire.
Mais d'après ce que vous dites, enfin, ça pourrait être important, parce que ça pourrait vouloir dire que le moine, finalement, préfère sa solitude à une vie de groupe qui n'en est pas une, en fait, qui est simplement des moments passés en commun, mais qui n'est pas un échange.
Oui, mais est-ce que, justement, la vie de groupe devrait pas être pensée différemment de ce qu'elle est actuellement, parce que je crois quand même que le chartreux n'a pas une vocation purement solitaire. Il y a aussi une part de vie communautaire. Et le lien entre les deux est souvent difficile à déceler. Au point de vue solitude, ce qui était au début de l'ordre n'existe plus exactement actuellement. C'est-à-dire que au début de l'ordre, il y avait une sortie le matin très tôt pour l'office de nuit. Ça devait se situer de telle sorte que l'office de l'aude arrive au moment où le jour commençait à arriver. Et l'autre sortie, c'était les vêpres. Il n'y avait pas de messe conventuelle à l'époque. Donc, la solitude, ça consistait à rester en cellule du matin, mettons 7 heures, jusqu'au soir, 6 ou 7 heures. Ça faisait 12 heures d'affilée en cellule. Actuellement, la perspective est quand même bien différente au point de vue solitude, parce que donc il y a un office de nuit, au milieu de la nuit, après on se recouche, le lever est vers 7 heures, la messe conventuelle suivie des messes privées, ça doit être vers 8h30, 9h moins le quart, donc ça fait là un tout petit peu de solitude, mais pas grand chose. Le moine rentre en cellule vers 10h, 10h30, et les vêpres sont vers 4h30. Donc le vrai temps de solitude, le temps fort, c'est entre ce moment-là, c'est entre 10h30 et 5h. Ce qui est quand même très différent de ce qu'il y avait primitivement. Alors bon, moi ça me posait des problèmes. Je trouvais que c'était quand même qu'il y avait une déviation à ce niveau-là, j'en avais parlé au permettre. Et il me dit, ah oui, c'est vrai, c'est pas pareil, mais actuellement, je suis sûr qu'il n'y aurait pas 15 personnes dans l'ordre qui seraient capables de supporter cette solitude-là. Donc, vous voyez, ils recherchent peut-être plus de solitude en voulant pas le réfectoire, mais d'un autre côté, ils ne seraient pas capables de supporter une solitude plus forte. C'est assez subtil, il faut, je crois, l'avoir vraiment vécu pour le sentir, mais je pense que ce qui aurait été important, c'est de changer peut-être un peu le mode de vie communautaire, de façon à le rendre plus vrai, plutôt que de supprimer des choses comme le réfectoire du soir, du dimanche soir.
Et justement, ces choses-là, amélioration ou changement, elles ne sont pas possibles.
Non. Ça s'est passé justement au moment où j'aurais dû faire profession. Donc en juillet, c'était vers le mois de juillet 71, le père Mette m'a demandé si je voulais faire profession au 1er novembre. Et je lui avais dit que j'attendais que sortent les nouveaux statuts qui faisaient suite au chapitre général du mois de mai précédent, donc de 2 mois avant. Et on devait sortir des nouveaux statuts qui élaborés par chapitre général et qui devaient apporter certaines améliorations à tous les niveaux. Et bon, j'ai trouvé que ces statuts ne m'apportaient pas les améliorations que je demandais. Et je n'ai pas voulu faire profession. Il y avait à la fois un problème de solitude qui, à mon avis, était un peu tronqué, et ce problème de vie communautaire qui n'était pas... qui n'était pas assez vrai, cette vie communautaire était trop artificielle, trop ritualisée.
Est-ce qu'elle n'était pas quand même dans le vrai sens de la règle, qui peut-être n'avait fait la vie communautaire que pour des raisons de facilité, vivant en commun uniquement parce qu'il est impossible de vivre totalement à l'ermite.
Peut-être.
Mais limitons au maximum la vie communautaire, peut-être.
Oui.
En tout cas, c'était parce qu'il...
Oui. Je ne sais pas si le but était limité, parce que je ne vois pas pourquoi il aurait imposé le réfectoire du dimanche, matin et soir, et les jours de fête. C'était aussi simple de mettre le réfectoire en...
Oui.
De faire manger les gens cellules. Pourquoi faire une récréation dans la semaine
Parce qu'il y a quand même
il faut, oui.
Un minimum,
oui.
Physique aussi.
Oui, il faut un minimum. Oui.
Cette solitude, et il faut
oui.
pouvoir au moins parler quelques minutes, sinon quelques heures par semaine.
Oui.
Comment se passait cette promenade? La parole était libre, vraiment
Tout à fait libre, oui.
Par groupe ou par affinité
On s'arrangeait pour ne pas être tout le temps avec les mêmes, et donc par groupe de deux, pour essayer de voir que tout le monde se voit et que, qu'il n'y ait pas trop de...
De liens privilégiés,
oui. Et donc, mettons, une dizaine de personnes partaient en promenade, et toutes les demi-heures environ, ils changeaient de partenaire pour... discuter par groupe de deux ou trois.
Et ça se fait de façon spontanée ou...
spontanée, oui. Enfin, au noviciat, c'était plutôt imposé. On disait maintenant, il faut changer. Mais après, ils voyaient l'un, après ils voyaient l'autre. Et c'est aussi suivant les capacités des gens à pouvoir marcher, parce que, bon, pour les novices, ils marchent encore bien, mais les profets, entre ceux qui ont 40, ceux qui ont 60, ceux qui ont 80, le rythme n'est pas le même.
Et la promenade pouvait être longue, je veux dire en kilomètres.
Oui, normalement c'est 3 heures en hiver, 4 heures en été, plus un grand spacement par an. Alors, par exemple, promenade classique en été, c'est d'aller au Grandson.
C'est bon,
c'est bon. Et... pour un grand spacement, c'était d'aller sur un autre sommet, soit à la Grande Sûre, soit à la Dent de Crolle, soit à Cham Chaude.
Jusqu'à la Dent de Crolle ?
Oui, à pied, tout à pied.
Et ça fait plusieurs kilomètres.
Ah oui, ça fait quelques kilomètres.
Hein. Il fallait la journée.
Oui, c'était le grand spacement de la journée, partir à 9h du matin et rentrer à 6h le soir.
Et tout le monde fait la même promenade ? Il n'y en a pas deux qui vont à l'endroit ?
On
ne
peut pas faire sa promenade.
Non, il faut évidemment aménager un peu selon les possibilités de chacun, mais au noviciat, c'est tout le monde ensemble, effectivement. Après, certains vont moins loin, et donc ces derniers temps, ils s'arrangeaient quand même pour que le but de la promenade soit le même pour tout le monde. C'est-à-dire que celui qui ne marchait pas, on l'emmenait en voiture au pied, pour aller à la Dent de Crolle, on l'emmenait en voiture au pied du col du Coq, pour qu'il n'ait pas pour trop à monter, quoi, ceux qui marchaient moins bien. Diminuer la promenade comme ça, mais faire en sorte que tout le monde puisse quand même se rassembler au même lieu.
Et pour vous, ce moment-là, donc, correspondait plus à un moment communautaire, enfin, de vie commune importante, parce qu'il y avait un échange.
Oui, bien sûr, oui, ça c'était beaucoup plus vrai au point de vue communautaire.
Et est-ce que les propos étaient, j'allais dire, tout azimut, c'est-à-dire sans sans considération. On ne cherchait pas à reparler de sa vie de croyant et de religieux. On pouvait aussi bien parler de...
Ah oui, aussi bien parler de n'importe quoi.
De la pluie, du beau temps et de...
Oui, oui. De raconter des histoires qu'on avait.
On avait peu de vies d'histoire à raconter, quand même, puisqu'on avait vécu la même vie.
Oui, mais enfin...
On ne pouvait pas parler d'expériences différentes.
Vous pouvez parler de ce qu'il avait fait avant, c'était pas défendu.
Ah oui, d'accord, c'est vrai.
Il rentre pas vibrant, quand même.
C'est les points de repère, c'est... On en parle, justement, d'avant l'entrée au monastère.
C'est pas interdit d'en parler, non.
Enfin, sans que ce soit interdit, mais je veux dire qu'on ait envie d'en parler... De l'échanger.
Oui, mais pas plus que de ça que d'autres choses. En fait.
Est-ce que l'obéissance, ça veut dire quelque chose, l'obéissance pour un père?
Sûrement,
oui.
Les statuts de 71.
Le dernier statut, justement, oui. Ce dont vous parlez, ça me
fait. Oui, que c'est ce que 71, c'est ça.
Et on y parle à plusieurs reprises de l'obéissance. Et est-ce que ça se sent dans la vie quotidienne qu'il y a une hiérarchie et que...
L'obéissance, c'est pas tellement à voir sous l'angle de la hiérarchie, je crois. C'est plutôt l'obéissance à la règle, la fidélité intérieure à un style de vie. Oui. Et non pas tellement de vouloir... Il y aurait par exemple un carreau de cassé, on ne va pas aller voir le révérend père pour lui demander la permission de le changer. C'est pas à ce niveau-là que ça se situe.
Mais est-ce qu'il peut y avoir des rappels à la règle pour des pères qui se laisseraient un peu aller dans leur aspect de...
Je pense que le révérend père, il ne doit pas hésiter à... Il est assez autoritaire, je crois. Que d'André ne doit pas hésiter à dire quand quelque chose ne va pas. Personnellement, je ne vais pas lui faire directement à lui parce qu'il ne veut pas non plus empiéter sur l'autorité du maître des novices. Alors s'il a quelque chose à dire à un novice, il passe par le maître des novices. Il ne fera pas la remarque directement.
Ensuite, on voudrait vous demander... Quels étaient les rapports entretenus avec les frères?
Alors peut-être que ça s'est assoupli maintenant. Du temps où j'étais, c'était très très séparé. Les frères, on ne leur parlait jamais.
On ne leur parle jamais?
Non. Du temps où j'étais. Maintenant, je crois que... Enfin, déjà à la fin où j'étais, il y avait quelques récréations communes avec les frères. Et d'ailleurs... on leur parle, mais on ne sait pas quoi leur dire à ce moment-là, parce que leur parler une fois par an pendant une demi-heure, on ne voit pas bien de quoi on pourrait parler.
C'était tous les jours?
Non, le dimanche.
Ah oui, vous parlez
de... Le dimanche après-midi.
La récréation, c'est celle dont vous parlez tout à l'heure.
Oui, oui. Ah non, la promenade, c'est autre chose. La promenade, c'est le premier jour de la semaine qui est libre, en général le lundi. L'après-midi, 3 heures en été et 4 heures en hiver. La récréation, c'est le dimanche après-midi, avant les vêpres. Durant environ une heure, entre une heure et deux heures. C'est à l'intérieur du monastère, et tout le monde parle ensemble, et c'est à ce moment-là que le révérend père fera des communications s'il y en a à faire, qu'il donnera des informations à tout le monde. Et chacun raconte, il y en a qui vont raconter des histoires, il y en a certains qui ont toujours des histoires à raconter, c'est toujours souvent les mêmes qui parlent.
Des histoires de quoi?
Pour rire, n'importe quoi. Je ne pourrais pas dire.
Quelle est l'importance du rire et du contact amical de ce type? C'est important pour les pères? Pour des gens comme nous, enfin.
Oui, je pense que pour la plupart c'est important. Pour certains, j'en connais plusieurs qui sont de caractère assez renfermé, qui s'éclipsent dès qu'ils le peuvent, qui tiennent pas à avoir beaucoup de contact. Il est un peu comme des ours, mais je pense que c'est quand même pas très bien perçu par le reste de la communauté, cette façon d'agir. Donc, disons que la façon normale, c'est de participer à récréation et d'y mettre plutôt de la bonne humeur. C'est pas, on ne cherche pas à à garder le sérieux quand, quand on est en récréation, hein, c'est pas...
Et l'inverse non plus, j'imagine, on n'est pas là pour absolument se défouler, on
a oui, oui, bien sûr.
Et alors vous disiez avec des frères qu'il pouvait y avoir quelques récréations communes.
Oui, mais très rare. Et le reste du temps, bon, bah, ils font leur travail dans, de leur côté et ils n'ont aucun contact avec les pères. Même à l'église, enfin maintenant, ils peuvent venir dans le... Vous savez que le cœur est séparé en deux par un jubé. Les frères sont d'un côté, les pères de l'autre. Progressivement, on a dit aux frères qu'ils pouvaient venir avec, du côté des pères. Je ne sais pas s'ils le font encore tous ou s'il y en a encore qui restent dans leur coin. Mais ils aimaient autant rester de leur côté là-bas pendant l'office.
Et suivez-vous les mêmes offices?
L'office de nuit était écourté hein, pour eux. Enfin, ils assistaient au, à matin et pas à l'aude.
Et ils étaient occupés à des tâches dans le monastère toute la journée. Enfin, une grande partie de la journée.
Oui, alors ils ont un horaire quand même de travail qui doit faire environ 6 ou 7 heures de travail par jour. Soit à la cuisine, je sais pas, il peut y en avoir un à la porte, un autre...
un entretien général
Il y a aussi, encore maintenant, je ne sais pas s'il reste encore, il y avait trois ouvriers qui étaient vraiment des ouvriers, hein, plus des familiers. Mais pour le gros entretien, il y avait des ouvriers, il y en avait deux qui s'occupaient plus spécialement du bois, puisque le chauffage se fait surtout au bois.
Même dans les cellules?
Oui, dans les cellules, au bois. Sauf dans certaines cellules du cloître des officiers, où il y a le chauffage central, qui est de même à l'église. Mais autrement, toutes les cellules du cloître sont chauffées au bois, avec un poêle à bois. Donc il faut... il y a une scierie, et il faut couper le bois et le rentrer dans les cellules. Il y avait un maçon qui avait toujours du travail, c'est pas en chômage. Et un menuisier aussi. Mais maintenant, je crois qu'il y en a plusieurs qui sont en retraite et je ne sais pas s'ils ont été remplacés.
Je sais qu'il y a un menuisier là, parce qu'on a travaillé à la Corée, c'est le menuisier du monastère.
Oui, donc il y en a encore un. Celui qui était devait prendre sa retraite et le sous-procureur de l'époque était plein d'illusions en disant que quand les ouvriers seront à la retraite, on ne les remplacera pas. Je crois qu'il y a des travaux que les frères ne font pas, s'il n'y a pas des ouvriers, c'est
un peu difficile. Et est-ce qu'avec des frères, quand même, même si on sait que ce sont des vocations différentes, il n'y avait pas le sentiment d'infériorité ou un rapport hiérarchique entre les pères et les frères, qui finalement, si on le regarde de l'extérieur, en tout cas, servent les pères?
Oui, ils s'en défendent, mais c'est quand même l'impression que ça donne... lorsqu'on vit dans le monastère, surtout pour les jeunes, je crois que c'est plus difficile à accepter d'être servi par les frères de cette façon. Je crois que c'est assez mal perçu.
Il y a toujours des vocations de frères. Ou est-ce qu'elles sont peut-être en diminution?
Alors là, actuellement, je ne saurais pas dire. Quand j'y étais, il y a eu beaucoup de passages, mais il y en a aussi beaucoup qui sont partis. Je crois qu'il ne reste pas. De l'époque où j'étais, il en reste peut-être un ou deux, mais pas beaucoup plus. D'ailleurs, chez les pères, c'est à peu près pareil. Depuis que je suis parti, il y en a deux qui ont fait profession. Depuis que je suis rentré, même. Il y avait donc Don Michel qui est maintenant procureur, et l'autre, Don Jacques, qui est scribe. Et actuellement, il y a des jeunes profs, mais de profession solennelle, je ne pense pas qu'il y en ait depuis. Je pense qu'il y en a eu deux depuis, donc deux depuis au moins 15 ans. Puisque la profession il y a eu d'autres professions, mais des gens qui malgré tout sont partis. Donc le dernier qui reste et qui fait profession avant Don Michel, ça remonte encore à près de 10 ans en arrière.
Il y a peut-être des étrangers qui viennent à la Grande Chartreuse.
Point de vue profession. Il y en a qui sont venus, il y a eu beaucoup d'Américains pendant un moment, et certains ont fait profession, mais ils sont tous partis les uns après les autres. Il a dû, pendant un temps, comme Américain, il restait juste le prieur de la Chartreuse d'Amérique. Et ils avaient été obligés de mettre des pères d'autres chartreuses en Amérique. Parce qu'ils avaient construit cette chartreuse parce qu'il y avait un gros afflux de vocations à ce moment-là. À la Grande Chartreuse, quand je suis arrivé, ils étaient 5 ou 6 Américains. au noviciat, ils ont fait profession, et quelques années après, ils sont pratiquement tous partis.
Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un rapport justement avec cette évolution de mai 68, changement de mentalité et des vocations qui sont arrivées après cette date-là?
Je ne pense pas que mai 68 était un point de repère très important pour
le Non, mais c'est toute cette fin des années 60 dans lesquelles il y a eu un renouveau du mysticisme avec un développement des croyances diffuses.
Oui. À l'intérieur de la Chartreuse, donc c'est le moment où il y a eu le plus gros, le plus de départ. Beaucoup de pères, même qui avaient fait profession, sont partis entre 60, mettons, 70 et 75. Là, il en partait une dizaine, même peut-être plus tous les ans, dans l'ordre. Maintenant, je crois que c'est ceux qui devaient partir sont partis et les autres ils restent.
Partis à l'extérieur.
Ah oui, ils sont quittés l'ordre, oui. Maintenant, pour les jeunes qui arrivent, donc là, moi, je ne connais pas ce qui sont arrivés après. Je pense qu'effectivement, il y a quand même un changement. Ceux qui arrivent n'ont pas le même esprit qu'à l'époque où j'arrivais. Ils sont peut-être plus tournés vers le mysticisme ou différentes. Ils ont fait souvent un cheminement assez compliqué avant d'arriver à la Chartreuse. Moi, quand je suis arrivé, c'était surtout à ce moment-là des jeunes qui venaient des familles chrétiennes, déjà. Oui. Qui étaient entrés, disons, presque naturellement, enfin, voilà, régulier, qui était tout régulier, oui, toute une éducation qui portait dans ce sens-là. Actuellement, ce sont plutôt des jeunes qui sont en réaction avec leur milieu et qui veulent, qui font des expériences de toutes sortes avant de venir faire la Chartreuse. Alors, qu'est-ce que ça donnera? Est-ce que on sait pas, je crois qu'on ne sait pas encore, parce que le père maître actuel, il aime bien discuter, je crois, avec tous ces jeunes, et il est intéressé par tous ces mouvements, mais du point de vue concret, il n'y en a pas encore un seul qui ait la profession solennelle. Il devrait y en avoir sans doute quelques-uns dans les années qui viennent, mais je ne sais pas comment ça se passera. Et cela, ces novices-là, je ne les connais pas du tout, donc je ne peux pas en parler.
Pour en revenir aux frères, Don Michel me disait justement l'autre jour qu'il y avait un problème de recrutement des frères. Qu'il y avait plus de. Enfin, en France, il y avait plus de vocation pour être père que pour être frère.
Oui, mais ça ne m'étonne pas. Moi, je pense que c'est un genre de vie, à mon avis, c'est un peu dépassé comme genre de vie. Je pense que. Enfin, ça, c'est pas du tout la vie du révérend père, alors. J'en avais discuté avec lui. Je prenais un exemple concret. Je disais, par exemple, le frère qui fait le pain, je vois pas pourquoi, il faut que ce soit un frère qui fasse le pain. On installerait un petit four à pain dans une cellule de père. Il pourrait faire son pain dans la journée. Et ça l'occuperait un peu, c'est un certain travail manuel qui n'est pas mauvais pour son équilibre à lui. Et c'est pas utile qu'il y ait une boulangerie séparée un peu à l'extérieur du cloître, et qu'il y a un frère qui soit chargé de faire le pain. Je ne sais pas s'il ne voulait pas comprendre, ou si vraiment il ne comprenait pas. Il ne voulait peut-être pas dire non plus que ça serait possible, parce qu'il représente l'autorité de l'ordre. Enfin, pour lui, c'était incompréhensible qu'un père puisse faire du pain à sa cellule. Il fallait des frères. Il en fallait un pour faire du pain, il en fallait un pour faire la cuisine. Moi, je disais, la cuisine, bon, il pourrait bien y avoir des fourneaux installés dans une cellule, il pourrait y avoir un père cuisinier. C'est pas absolument impossible, ça ne lui demande pas de sortir de cellule, sauf de passer une fois par jour faire la distribution dans le cloître. Mais si c'était organisé, il pourrait y avoir un père qui fasse la cuisine, un autre qui récupère, qui fasse la plonge, je sais pas, un autre qui distribue les desserts, un truc comme ça. Mais ça pourrait être organisé de telle sorte que les pères puissent rester en cellule et faire ce que font actuellement les frères. Primitivement, les frères, c'était plutôt pour les gros travaux, pour garder les moutons dans les pâturages, pour... pour les forges, oui, pour différents travaux qui devaient se faire uniquement à l'extérieur. Actuellement, avec les moyens modernes, l'entretien courant du monastère peut se faire père à père dans sa cellule. Bon, ça, le révérend père, on n'est pas tombé d'accord sur ce point-là, et il trouvait que les frères correspondaient à une vocation très particulière. Peut-être qu'il a raison.
Mais, ça vous gêne, vous passez un rapport hiérarchique et de service.
Voilà. J'aurais mieux vu quelque chose de tout à fait séparé, qu'il y ait un monastère avec des frères qui ont une vie tout à fait différente, qui mènent leur vie à eux, et des pères qui soient autonomes, sans avoir besoin de frères pour les servir. Parce que je pensais d'ailleurs que, au point de vue travail manuel, il y avait un facteur de déséquilibre dans la vie des pères. Ce qui ne correspondait pas du tout à ce qui était au départ. Donc au départ, pendant ce grand temps de solitude dont je vous parlais,